Je vous remercie, je passe la parole à Gérard qui va nous dire des choses. Bon, il n'est pas nécessaire d'un des livres.
Alors habituellement, oui, je prépare une bibliographie et la maison du livre me fournit des livres, je fais une table spéciale. Mais sur ce sujet-là, au détour de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines d'ouvrages sur le sujet. Mais surtout des ouvrages très spécialisés, à destination, comme il est dit, d'étudiants en économie-gestion, universitaires, écoles de commerce, etc., ou professionnels. Donc je me suis contenté de faire une compilation informative qu'on pourra transmettre par Internet à ceux qui sont inscrits sur le listing, ou ceux qui s'y inscriront ce soir. Une compilation donc de textes généraux avec beaucoup de liens internet qui renvoient sur des sites ou des informations très précises, y compris des sites de maisons d'édition qui ont l'avantage sur chaque présentation livre présenté d'en faire une critique ou un commentaire. Donc c'est ce qui est quand même intéressant. Alors j'ai par exemple un site qui s'appelle ressourcessolidaires.org, socioeco.org, ce sont des sites ressources de l'économie sociale et solidaire qui eux-mêmes donnent des listes de sites internationaux d'information sur l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi, très intéressant, le site du ministère de l'économie.gouv qui détaille complètement le projet de loi économie sociale et solidaire qui est en cours d'examen, en phase finale d'examen, on en parlera je pense, cette loi, on en est à sa phase finale, elle est en discussion, ça tombe assez bien d'ailleurs, elle est en discussion à l'Assemblée nationale ou en débat public aujourd'hui, c'est la phase finale, 3 juillet. Et donc après tout, toute la navette du parcours parlementaire, Sénat, Assemblée, les deux lectures, etc. Et donc pour cette procédure-là, avait été demandé un rapport à Philippe Frémaux, qui est un économiste assez solide. Hein. C'est le président de la coopérative qui édite Alternative Économique, le magazine Alternative Économique. Par exemple, il intervient aussi sur France Culture, sur France Info, les chroniqueurs, il est assez connu. Il a fait donc un rapport en 40 pages qui a été rendu en novembre 2013, qui est résumé là, avec la possibilité d'un téléchargement par Internet. Voilà, donc une maison d'édition aussi qui s'appelle le Rue de l'Échiquier, qui est un peu spécialisée sur ces questions-là et qui propose pas mal de livres sur l'efficacité économique au service de l'intérêt général, le microcrédit, le financement des entreprises sociales et solidaires et les entrepreneurs qui changent le monde. Enfin, on a aussi le livre blanc de une finance au service de l'économie sociale et solidaire qui est paru en juillet 2013, qui lui aussi, c'est sous forme de tribune par Claude Alfandéry, c'est téléchargeable sur Internet. Et j'indique aussi le livre L'économie des inégalités, qui n'a pas un rapport direct avec l'économie sociale et solidaire, mais que j'avais déjà présenté quand il avait sorti l'histoire du capital au XXIe siècle, jusqu'au XXe siècle, qui a eu un succès international, hein, qui est un best-seller maintenant. Et il avait sorti donc ce livre en 2008, oui, aux éditions La Découverte. Un petit résumé. Donc voilà, toute cette information-là, elle sera transmise par Internet. Thomas Piketty, il a une réputation maintenant vraiment internationale. Hein.
Il n'y a qu'en France qu'on ne l'a pas vu.
Mais voilà, on ne l'a pas très connu. Moi, j'avais présenté son livre quand il est sorti, mais ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Et puis, je trouve que ça a été propulsé. Ah oui, oui, absolument.
C'est pour ça.
Voilà. Ah ben voilà, peut-être.
Qui est venu sur le site Alain.
Voilà.
Mais bon, ça me permet de dire que les jeudis en question sont tous enregistrés. C'est public, donc très bien, et disponible sur le site des jeudis en question. Je renvoie chaque mois avec l'information du prochain, je renvoie toujours le lien qui permet d'écouter la précédente et de retrouver les précédents. Voilà. Donc, merci à Jean-Louis de faire le boulot de bibliographie sonore pour les jeudis en question.
Alors, sur, juste une petite précision, sur un site qui s'appelle Recherche et Solidarité, est publié aussi, je ne l'ai pas noté là-dessus, je le rajouterai, le bilan 2013 de l'économie sociale et solidaire, qui nous apprend que, ben, en France, on a 200 000 établissements qui fonctionnent sous ce régime-là. 200 000 établissements. Associations, coopérations, mutuelles, fondations, etc. Avec plus de 2 millions de salariés. Ouais, c'est énorme. Un emploi privé sur 8. Une masse salariale de 54 milliards d'euros. Énorme. Enfin, tu en parleras, je pense beaucoup mieux que je le fais là. Tu vas développer tout ça. Et je laisse la parole à Pierre.
Donc. Merci.
Bon.
Est-ce qu'il faut peut-être fermer ces fenêtres quand on entend mieux?
On me dirait si vous
n'entendez pas.
S'il y a des soucis, vous me le dites, je fermerai. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer par faire la présentation de Promessa, comme ça, ce sera fait, on ne parlera plus. Promessa est une association qui s'est créée fin 2008. Suite à deux forums de l'économie sociale et solidaire qui se sont déroulés à Sébazac. Vous avez peut-être eu l'occasion d'y participer, ça avait été deux forums qui avaient bien marché. Et à l'époque, c'était le centre du volontariat qui avait pris l'initiative, qui avait porté ce forum, ces deux forums successivement, en particulier Mme Kayla, qui est devenue depuis maire de Sébazac. Et ils ne souhaitaient pas continuer à porter ce travail d'organisation de forum. Donc ils ont cherché à créer, et il y a eu une réflexion pendant quelques mois qui a abouti donc à la création de Promessa. Donc Promessa, c'est promotion de l'économie sociale et solidaire en Aveyron. Leur projet, enfin du moins ce qui avait lancé ça, était qu'on refasse de nouveaux forums de l'économie sociale et solidaire. Et jusqu'à maintenant, 6 ans après, on n'en a toujours pas fait. Ça reste à faire. Par contre, on a eu un certain nombre de manifestations, d'organisations, de soirées ou d'après-midi. Je pense en particulier à une après-midi qu'on avait organisée sur le... Il y a de la place ici. Sur un 1er mai, on s'était dit, tiens, c'est original de réunir les gens, ils ne travaillent pas, a priori le 1er mai. Et on a fait une soirée, une après-midi à Sébazac sur travailler autrement. Et qui avait d'ailleurs eu un bon succès. Il y avait 150 personnes qui avaient participé. Ça avait été tout à fait intéressant de voir une approche différente du travail. Il y a eu d'autres sujets. Je passe là-dessus. Promessa, là, ces derniers mois, avait eu une activité un petit peu en baisse, compte tenu de mes autres occupations importantes, et je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait dans le groupe de Promessa un groupe qui réfléchissait pas mal sur la politique autrement, je vais dire. Et donc, ils avaient un peu désinvesti les rangs de Promessa, donc on s'était un peu moins mis en avant là, depuis quelques mois. Ça ne nous a pas empêché, par exemple, de participer à la mise en place de l'auto-école sociale qui a été maintenant mise en œuvre par l'association LASAC, vous en avez peut-être entendu parler. Voilà, j'en reste là. Alors si, deux mots pour dire que Promessa réunit un certain nombre d'associations ou d'organisations. Le centre du volontariat dont j'ai parlé, donc qui a changé de nom, qui s'appelle Associatis maintenant. Le Pacte Aveyron, CapCop, Initiative pour une économie solidaire, j'en oublie, j'ai ma petite plaquette, ça sera plus facile. Le Philistin, qui fait de l'échange avec la Palestine. Canopée, Plazac, le lycée agricole de la Roque, la DPS, la PABA et la MAP du Ruthénois. Bon, je suis pas tout. Voilà un petit peu pour vous situer, mais c'est un tout petit nombre des gens qui pourraient adhérer à cette association. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de battages pour faire rentrer les gens. Voilà ce que je voulais dire sur Promessa. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai vu le magnifique logo des jeudis en question. Et je cherchais quelque chose que je n'ai pas trouvé sur ce logo. Mais c'est pas grave, on va... Je pense qu'il y a la place pour ajouter des petites feuilles. Vous voyez le petit logo, là, l'arbre avec des feuilles sur lesquelles il y a un certain nombre de noms. Donc je vois l'économie, je vois le travail, je vois la société, je vois le service public, la sécurité, la solidarité. Donc plein de sujets tout à fait intéressants. Et puis quasiment pile au milieu, j'en vois un qui m'intéresse beaucoup ce soir, qui est la liberté. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait deux autres feuilles, une qui s'appelle l'égalité et la troisième qui s'appelle la fraternité. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, on peut utiliser ces trois valeurs en termes économiques. Évidemment, si je parle de liberté, la liberté dans le monde économique, on sait tout à fait de quoi on parle. Et la libre entreprise, le libre échange, actuellement, on utilise beaucoup ce terme dans le monde économique. On l'utilise, l'égalité, c'est pour moi tout ce qui relève des services publics, qui ont tendance à diminuer, certes, mais il en reste quand même un certain nombre aujourd'hui, de l'armée à la sécurité, en passant par l'éducation nationale et la santé. Vous voyez qu'il y a quand même des pans importants de l'économie nationale qui dépendent directement du service public. Donc c'est ce que je mets sous le label, sous l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'a priori, tout citoyen a le même accès à ces services-là. Ils sont mis à la disposition de l'ensemble des personnes qui habitent dans le pays. Tout le monde a droit aux soins, tout le monde a droit à l'éducation, etc. Et le troisième, c'est la fraternité. Alors c'est celui qui nous concerne davantage ce soir, qui est donc pour moi l'économie sociale et solidaire. Et je crois, j'aime bien pourquoi je parle de cet aspect-là, pourquoi les trois, parce que je pense que c'est fondamental et que tout le monde connaît le CELU. Le petit tabouret à trois pieds pour traire les brebis ou les vaches, plutôt les vaches. S'il n'a pas trois pieds, on a de mal à se tenir assis correctement. S'il a quatre pieds, il est toujours un peu bancal. S'il en a qu'un, ça existe avec un seul, mais c'est un peu acrobatique pour se tenir là-dessus. Il faut savoir faire. Tandis que trois pieds, immédiatement, on trouve son équilibre, même si c'est un peu penché d'un côté ou de l'autre. Et donc, dans le monde de l'économie, je crois que c'est la même chose. Il faut qu'il y ait ces trois pieds. Vous allez me dire, c'est bien évident qu'il y a un pied beaucoup plus gros que les autres, c'est le pied de la liberté, en l'occurrence. Il n'empêche qu'il faut faire grandir, sans doute, et c'est l'objet de la discussion de ce soir, le pied de la fraternité, le pied de l'économie sociale et solidaire. Alors, avant d'aller peut-être plus loin, j'avais envie de vous faire travailler deux minutes. J'ai amené des post-it. Je vais en donner un à chacun et je vais simplement vous demander d'écrire sur le post-it un nom de ce qui vous paraît appartenir à l'économie sociale et solidaire. C'est pas compliqué. Un nom d'une activité relevant pour vous de l'économie sociale et solidaire. Tout le monde a rendu sa copie ? Merci. Alors, effectivement, j'ai pas été assez précis dans ma question. C'est pas grave, on va faire avec. Parce qu'effectivement, je voulais plutôt des noms d'entreprises que des secteurs. Mais c'est pas trop grave.
On recommence.
Parce que, alors, je lis ce que vous avez mis, hein. Pépinière d'entreprise, d'accord. Emploi, alors emploi, effectivement, le terme est très générique, donc c'est difficile, il y a du... de l'économie sociale et solidaire ou pas. Logement, alimentation, c'est la même chose. Coopérative, alors là, pour le coup, on est bien dans l'économie sociale et solidaire. La banque solidaire, donc là, on est bien dans l'économie sociale et solidaire. L'argent, la monnaie, alors je ne connais pas la monnaie, j'imagine que c'est comme une monnaie locale, c'est ça, non ? Je ne sais pas qui l'a écrit. La monnaie, entre guillemets. C'est parce que si c'est l'argent en tant que tel, c'est pas...
L'argent n'est pas solidaire.
Il y a marqué la monnaie dessous.
Oui.
C'est ça.
Si, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai mis l'argent, puis après, pour que ce soit compris comme n'étant pas le métal, j'ai pris comme ce qui pourrait être le métal. Tu peux le mettre avec banque, si tu veux.
La monnaie d'échange.
Si tu veux le mettre dans un...
On va voir. Association intermédiaire, on est en plein. Point emploi, Marciac, tout à fait. Sécurité sociale, je dirais non. Là, je dirais qu'on est dans la branche que j'ai citée, relevant de la fonction publique, donc de la branche égalité, et plutôt que de la branche fraternité. L'agriculture, alors il y a marqué maisonnée, raisonnée, pardon. Raisonner, c'est moi qui ne le disais pas. Alors l'agriculture raisonnée, c'est un premier pas. Le sans traitement, ça va être encore un peu plus. Coopérative SCOP complètement. Formation, alors la formation, c'est là, pareil, c'est un terme tout à fait générique, donc ça peut être l'éducation nationale. Là, on n'y est pas du tout. Si c'est lycée privé associatif, par exemple, là, on y est. AMAP, on y est complètement. ADMR, tout à fait. Centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie, tout à fait, puisque c'est une association. Le commerce équitable, AMAP, oui, tout à fait. Les SCOP, Crédit Agricole pour partie, on est d'accord. La NEF, tout à fait. SCOP, entreprise autogérée, tout à fait. Donc vous voyez que quand même, spontanément, vous avez quand même globalement une idée assez intéressante du secteur, hein, et qu'il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien, l'économie. Et parce que souvent, les gens ils disent « mais on ne sait pas ce que c'est l'économie sociale et solidaire ». C'est un mot, c'est un concept, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce que c'est. Alors, là maintenant, je vais repartir un peu en arrière, je vais faire un petit peu d'histoire. Pas trop longtemps, je vous assure, mais c'est un peu pour resituer comment tout ça est arrivé. On repart quand même à la Révolution française. Et alors, curieusement, c'est pas du tout la Révolution française qui est à l'origine de l'économie sociale et solidaire. Je dirais au contraire. Pourquoi ? Parce qu'en 1791, pardon... 1791, excusez-moi. Il y a eu une loi, le 14 juin, très précisément, qui s'appelle la loi Le Chapelier. Et cette loi a interdit tout ce qui était rassemblement de personnes. Alors, elle se situait par rapport à ce qui existait avant, qui était le compagnonnage, qui était toute une série de possibilités d'échange entre les gens. Et donc, curieusement, la Révolution française a été une révolution qui a amené une restriction énorme au niveau du lien social entre les gens, etc. Interdiction de réunion. Hein, ça veut dire que là, on arrivait, on nous mettait au trou, là, tous. Hein. On était en réunion, mais ça peut commencer à 3 ou 4, une réunion, c'est pas forcément à 25. Donc, il y a eu cette période-là, qui a donc interdit les corporations de métiers, les rassemblements paysans, le compagnonnage, etc. Elle interdit bien entendu tout ce qui est grève et contestation. Et donc ça va durer comme ça un certain temps. Mais là, on se retrouve au début du 19e siècle. Et le 19e siècle est le siècle qui a vu arriver en France le développement massif de l'industrie. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé de la petite fabrique, de la petite usine, atelier, on va dire, à la production de masse, avec vraiment le développement de la classe ouvrière, à ce moment-là, au XIXe siècle. Et donc, forcément, la cocotte minute, la pression est montée petit à petit, il y a eu un certain nombre de revendications. La plus célèbre a été en 1831, la révolte des Canuts à Lyon. Et donc on était en 1831. Il y a eu, bon, je cite celle-là, il y en a eu d'autres. Ça a continué la cocotte a continué à monter, la pression a monté, et donc petit à petit, il y a eu un certain nombre d'acquis sociaux. Donc un des premiers a été la loi de Valdecrousseau en 1880. Non, d'abord. En 1881, il y a eu une loi qui a autorisé la réunion. L'autorisation de réunion, ça remonte à 1881. Donc il y a eu quasiment un siècle pendant lequel, en France, les réunions ont été interdites. Ensuite, en 1884, c'est la loi Valdecrousseau qui autorise la création des syndicats. Ensuite, 1886, autorisation de la création des sociétés de crédit, en particulier Crédit Agricole, distinct des syndicats. En 1993, une loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Donc c'est la première fois qu'on parlait d'hygiène et sécurité au travail. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les conditions de travail étaient assez dramatiques. Les enfants travaillaient, etc. Donc c'était quand même particulièrement compliqué. 1898, qui marque un tournant dans l'histoire avec la création des mutuelles. C'est Léon Bourgeois, qui est un défenseur de la mutualité sous la Troisième République, qui instaure la charte de la mutualité. Les adhérents des mutuelles sont alors autorisés à mener librement leur activité. Une loi tout à fait importante qui vient un peu plus tard, 1901, loi qui crée la liberté d'association. Et il faut savoir qu'on est toujours sous le même régime de la loi de 1901, qui n'a quasiment pas évolué. On avait voulu la faire évoluer à l'occasion du centenaire, donc en 2001, et en fait, ça n'a rien changé. Par la suite, la première moitié du XXe siècle, ça n'a pas évolué très vite pour une cause essentielle, selon moi, c'est qu'il y a quand même eu deux guerres importantes qui font que ça n'a pas permis sans doute un grand développement à ce moment-là. Mais tout de suite après-guerre, on a vu un important développement, et là en particulier après-guerre, c'est le développement de l'État-providence, donc création de la Sécu et d'un certain nombre d'organisations par l'État après la guerre de 1945. Le développement de l'économie sociale et solidaire auquel on va venir, c'est essentiellement dans les années 70 que ça vient bien se développer. Alors c'est quoi à ce moment-là l'économie sociale? On ne parle pas encore d'économie solidaire. L'économie sociale, c'est le secteur des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. Les fondations, il n'y en a pas énormément en France, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet en particulier, mais le gros de ce secteur, c'est le secteur associatif qui regroupe le plus grand nombre d'activités. Et comme vous commencez à l'évoquer tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un secteur tout à fait important en France. Un autre secteur qui est important, en particulier dans un département rural comme l'Aveyron, c'est le secteur des coopératives, puisque le secteur de l'agriculture a développé beaucoup de coopératives. Même si on pourra discuter après sur ce que sont devenues certaines de ces coopératives, mais ça a été un secteur tout à fait important. Et le secteur de la mutualité reste en France un secteur tout à fait important. Et je pense que c'est quasiment un automobiliste sur deux qui est assuré par le mutuel. Donc, qu'est-ce qui est important pour l'économie sociale? C'est qu'elle est définie par son statut. Et c'est-à-dire que l'économie sociale, on parle d'économie mise en place par des associations, par des mutuelles, par des coopératives ou des fondations. C'est tout, ça s'arrête là. Et ça, je crois que c'est un aspect important et que la loi, justement, qu'on est en train de voter, va faire un petit peu évoluer. Après, l'économie sociale, elle, arrive, on va dire, après la crise des années 70. Il y a un certain nombre d'associations qui vont se développer. Je cite Jean-Louis Laville, qui est un économiste et un sociologue, qui dit que l'économie sociale et solidaire n'est pas une exception française. C'est un mouvement qui se retrouve dans de nombreux pays. Ce fait social a une histoire originelle liée à la modernité démocratique. Depuis deux siècles, l'associationnisme résulte d'actions collectives mises en œuvre par des citoyens libres et égaux, se référant à un bien commun. L'associationnisme pionnier, c'est-à-dire au départ, qui s'est développé à la fin du XIXe siècle, cherchait à lutter contre les inégalités, à l'opposé de la philanthropie, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, il ne revenait pas, de la philanthropie qui se cantonne encore souvent au combat contre la pauvreté. C'est-à-dire que d'un côté, on a une organisation, une économie sociale qui veut essayer de réduire les inégalités entre les gens et de permettre aux gens d'acquérir une meilleure situation personnelle, alors que la philanthropie se contente, c'est déjà bien, mais se contente, j'ai envie de dire, d'apporter à manger à ceux qui n'ont pas à manger, sans peut-être prendre la peine de voir comment ils pourraient se faire à manger le lendemain. L'économie sociale et solidaire est un ensemble complexe, donc on l'a dit. En fait, trois représentations s'entremêlent. Le registre de l'entrepreneur social, pour qui l'activité économique est motivée par des objectifs sociaux, service à la personne, de l'enfance aux personnes âgées. Et donc on voit bien tout ce qui existe dans l'Aveyron, pour parler du local, au niveau des associations, si on prend la quasi-totalité des établissements qui s'occupent de protection de l'enfance ou d'enfance inadaptée, quelle que soit la cause de l'inadaptation, sont gérés par des associations. Je cite par exemple Grèze, l'ITEP de Grèze, l'ITEP de Massip à Cadenac, tout le secteur très important de l'ADAPI dans l'Aveyron, qui représente quand même 800 salariés, ce qu'on appelle les PEP, l'association des PEP, qui gère un certain nombre d'établissements, la quasi-totalité des établissements pour personnes âgées, les EHPAD aujourd'hui dans l'Aveyron dépendent encore pour la grande majorité d'associations, donc appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Le secteur de l'enseignement privé à but non lucratif, qui est quand même relativement important dans l'Aveyron, appartient à l'économie sociale et solidaire. Voilà pour les associations. Il y en a plein d'autres. Après, vous avez tous les clubs sportifs. La plupart sont des associations à la base. Il y a peu de clubs qui soient des entreprises. Ça existe, mais c'est relativement rare. Donc tout le secteur des sports, du club de judo, club de foot, à tous les niveaux, sont du secteur associatif. Quelle est la particularité de l'association? Qu'est-ce qui fait qu'on dit c'est de l'économie sociale et que c'est pas de l'économie libérale? Quelque chose de fondamental qui est que une association ne peut pas faire de bénéfices. Une association a intérêt à avoir de l'activité pour vivre, elle peut avoir différentes sources de revenus pour vivre, elle peut avoir des activités marchandes, c'est pas interdit par la loi, mais elle ne peut pas faire de bénéfices. S'il y a de l'argent qui est dégagé, qui a plus de ressources que de charges, et bien cet argent il va être consacré à mettre un peu de côté pour voir venir le futur, parce qu'on n'est jamais tout à fait assuré de l'avenir dans le secteur associatif. Elle va permettre peut-être de faire des travaux, mais elle ne va jamais entraîner de partage de bénéfices entre les membres de l'association. Dans les coopératives, on assiste au même procédé. Et dans les associations comme dans les coopératives, idem dans les mutuelles, il y a une règle fondamentale qui est un homme, une voix. C'est-à-dire que ce n'est pas le capital que vous pouvez avoir amené au départ qui va vous donner du pouvoir dans l'entreprise. Tout le monde a le même pouvoir, un homme, une voix. Donc vous voyez bien que quand on est dans l'économie sociale, on est... L'homme reste, j'allais dire, est remis au centre et la cible visée par l'activité. Alors que dans l'économie libérale, aujourd'hui, on sait bien que ce qui est recherché, c'est l'argent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me dis de manière sans doute un peu provocatrice l'argent, l'argent aujourd'hui, c'est tout à fait un moyen essentiel de l'économie. Je ne conteste pas l'utilité de l'argent. Je ne conteste pas du tout, bien au contraire, l'économie. Et on vous l'avait mis dans l'invitation, l'économie est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. Moi, ça me convient tout à fait. C'est normal, il y a des gens qui produisent, des agriculteurs qui produisent des denrées alimentaires, des entreprises qui vont produire des meubles, d'autres qui vont produire des voitures, et donc il y a des échanges qui se font. Pour faciliter les échanges, on a depuis longtemps abandonné le troc, donc on a mis l'argent qui permet les échanges. Là, l'argent utilisé comme ça, il n'y a pas de souci. Simplement, au fil du temps, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? C'est que l'argent, de moyen qu'il était, est devenu une fin en soi. C'est-à-dire qu'on crée aujourd'hui de l'activité pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, quelqu'un qui crée une entreprise qui n'a pas pour but de gagner de l'argent, il est considéré comme un couillon. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps à perdre à la source un soir pour en discuter. Mais sinon, si on est dans le milieu économique, on n'est pas là pour dire « Est-ce que je vais, par mon activité, améliorer le bien des gens, est-ce que je vais donner du travail aux gens ?» C'est pas la première préoccupation de celui qui crée l'activité, une entreprise aujourd'hui, et surtout les grandes entreprises. Les entreprises du CAC 40, on voit bien qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'il suffit qu'elles aient un plan social, un plan de licenciement, pour qu'automatiquement la valeur de leur action augmente. Donc là, on voit bien qu'on a complètement dérapé par rapport à ce qu'est l'économie. Le but de l'économie, c'est pas ça. Au départ, le but de l'économie, c'est le vivre ensemble. C'est apporter aux uns et aux autres de quoi manger, de quoi vivre, de quoi s'habiller, etc. Et on a complètement dévoyé ça par l'argent. Et je pense que l'économie sociale, le but de l'économie sociale, c'est de ramener un petit peu ça. Et c'est de permettre, en créant des mutuelles, que les gens puissent se faire soigner et que tout le monde puisse se faire soigner, qu'il n'y ait pas juste quelques personnes, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a créé les mutuelles avant de créer la sécurité sociale. Aujourd'hui, en général, les mutuelles sont un rôle d'assurance complémentaire. Au départ, il n'y avait pas de sécu, donc c'était elle qui avait ce rôle-là. Et aussi un autre aspect qui est important, c'est que souvent l'économie sociale a un rôle d'anticipation. Souvent, il y a des activités qui sont créées par ce secteur-là et qui restent dans ce secteur-là tant qu'ils n'apparaissent pas comme très rentables. Le jour où le secteur privé lucratif, je dis privé lucratif parce que le secteur de l'économie sociale et solidaire appartient au secteur privé aussi, mais le secteur privé lucratif, dès qu'il sent qu'il y a l'opportunité de faire des bénéfices, il va se précipiter dessus. On ne le voit pas encore beaucoup dans l'Aveyron, mais vous allez à Toulouse, plus de la moitié des établissements pour personnes âgées sur Toulouse sont des établissements qui appartiennent à des groupes privés lucratifs. Sur Toulouse, vous avez énormément de services de soins qui sont des services des cliniques privées à but lucratif. Et si vous y restez un certain temps, vous allez vite vous apercevoir de la différence qu'il peut y avoir au niveau du service, entre le service qu'elles vont vous offrir et surtout après l'opération. Vous allez peut-être avoir des soins très pointus, mais dans la durée, vous allez vous apercevoir que le lucratif, il s'est grignoté sur tous les aspects du quotidien, de la télé à la nourriture. Ensuite, je parle de l'économie solidaire qui arrive, elle, un peu plus tard et plus récemment, et qui est plus axée sur les échanges et remettre la personne au centre de l'économie. Et donc c'est là qu'on va retrouver un certain nombre d'associations. Donc là, par exemple, on a cité les AMAP. Et la MAP est un très bon exemple d'économie solidaire, hein, c'est-à-dire la MAP, eh bien, c'est une convention qui est signée entre un producteur et des consommateurs. Le producteur, lui, s'engage à servir sa récolte au consommateur, et le consommateur s'engage à acheter la production, quelle qu'elle soit, au producteur. Ce qui fait que le producteur est assuré de son revenu pour l'année. Il sait que cette année-là, il va avoir tant de revenus et qu'il a à servir tant de familles qui ont payé pour ça. Et sur Rodez, il y a une AMAP qui fait déléguer. Enfin, il y a plusieurs branches, mais ça fonctionne très bien. Je crois que les gens qui participent à l'AMAP en sont assez satisfaits. L'économie solidaire aussi, elle est... peut-être, oui, je disais, plus centré sur la personne, plus centré sur le comment faire que l'activité mise en place ait d'abord pour but du bien-être de la personne, etc. On ne va pas se préoccuper de rentabilité, bien qu'il va falloir, enfin, rentabilité, si, peut-être, mais de profit, mais de l'intérêt, c'est le service à la personne. Globalement, qu'est-ce qu'est aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un mouchoir qu'on agite, l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de sérieux. On a commencé à vous citer des chiffres tout à l'heure. J'en cite rapidement quelques autres. En gros, on dit que c'est 8% du PIB. Alors je sais bien, le PIB est un indicateur économique un peu particulier, et rien ne vaut une guerre pour faire monter le PIB. Donc ce n'est pas forcément le meilleur indicateur. Mais enfin, ça, c'est un indicateur parmi d'autres. 9,1% des entreprises françaises, donc 215 000 établissements en France, appartiennent au secteur de l'économie sociale et solidaire. 2 millions, presque 300 000 salariés. On nous a dit tout à l'heure, 54 milliards de salaires. Versé par le secteur de l'économie sociale et solidaire en une année. Donc vous voyez un petit peu l'importance, quand même, qui est relative certes, mais qui est quand même pas négligeable du tout dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, ça va de... Quand vous regardez aujourd'hui, vous prenez la voiture le matin, votre voiture, elle est assurée où? Peut-être une chance sur deux qu'elle soit assurée dans une mutuelle. Vous avez des enfants en bas âge, vous allez les conduire à la crèche, il est possible que ce soit une crèche associative. Vous avez une personne âgée à domicile, elle a besoin d'aide à la personne, on va faire appel à un service d'aide à la personne. Dans l'Aveyron, la plupart sont des services associatifs. Et ainsi de suite. Vous pouvez aller faire vos courses en décor, et vous êtes dans le secteur, c'est paradoxal, mais vous êtes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est toujours une coopérative. Voilà pour citer un petit peu au quotidien toutes les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a des secteurs où il y a plus effectivement de salariés, et on voit qu'il y a en gros 1 sur 3 dans le secteur du social, qui est de l'économie sociale et solidaire. 1 sur 6 dans l'éducation. Majoritairement des femmes. 65% des salariés de l'économie sociale et solidaire sont des femmes. Un taux d'emploi des seniors relativement important, puisqu'il est de 26,5%, alors qu'il n'est que de 21% dans l'ensemble de l'économie. ça, ce qui va avoir un impact tout à fait important, ça veut dire que dans les 10 prochaines années, il va y avoir plus de 500 000 créations d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Un aspect tout à fait important de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est une économie non délocalisable. D'une manière générale, si vous reprenez les services que j'ai évoqués, et on ne va pas exporter en Roumanie nos personnes âgées, ni nos enfants, etc. Et donc vous voyez bien que la plupart des activités, elles sont inscrites dans le local parce qu'elles sont autour de la personne et que la personne, elle est là. Donc forcément, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est un aspect tout à fait important, donc la création d'emplois, l'aspect que ce soit non délocalisable. Des études ont été faites qui montrent que, par rapport à la crise, l'économie sociale et solidaire a plutôt mieux résisté. Il y a eu moins de pertes d'emplois dans ce secteur-là que dans le secteur industriel classique. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je ne sais pas. Vous me poserez des questions après. Un mot, je vais m'arrêter après, parce que je ne sais pas, je n'ai pas surveillé l'heure, mais... Un mot simplement sur donc, ce qui a déjà été évoqué, c'est qu'il y a actuellement en débat au Parlement un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça va donner exactement, je ne sais pas, parce que vous savez que le temps d'entrer dans la navette, etc., il y a des amendements. Un des aspects qui me paraît important, c'est que ça va permettre la reconnaissance d'activités sociales et solidaires en dehors du secteur associatif, mutuel et coopératif. Merci. Ça veut dire, ça existe déjà. Est-ce que déjà, il y a des entreprises, une SARL peut avoir une activité qui relève de l'économie sociale et solidaire. Je connais l'exemple que je vais vous citer qui n'est pas loin d'ici, Côte d'Ime. Il y a un magasin qui vend des produits, ça s'appelle les couleurs d'antan. Hein, si vous voyez ça, quand on monte là, juste en face de le radar, pour vous le situer, Côte d'Ime.
Ils ont un peu déplacé le radar.
Ils ont déplacé le radar.
Il est juste un peu après, mais ça.
Et c'est une SARL, hein, c'est une société tout à fait classique. Mais l'entrepreneur en question a créé, alors non pas au niveau du commerce ce qu'il fait, là je pense que c'est une activité classique de commerce, mais à côté de ça, il a créé une entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'il embauche des gens qui sont demandeurs d'emploi et qu'il peut garder pendant 2 ans dans des conditions particulières et au bout de 2 ans, qui doivent être remis au travail sur le marché du travail classique. Et c'est une entreprise qui a, par exemple, fait tous les pavages des rues de Conques. Quand vous marchez dans les rues de Conques, vous marchez sur le travail d'une entreprise privée, mais qui, pour moi, relève de l'économie sociale et solidaire. Alors aujourd'hui, il ne pouvait pas vraiment le revendiquer. Il pourra le revendiquer s'il existe, parce que je crois qu'il est... Oui, on me fait signer qu'il a peut-être arrêté son activité. Mais voilà, c'était un exemple local que je voulais citer. Pour vous dire que c'est tout à fait possible, parce qu'il y a un aspect aussi que je n'ai pas... Il y en a d'autres que j'ai dû oublier, qui sont aussi de l'ordre de l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que la façon dont on gère une entreprise peut relever plus ou moins de l'économie sociale et solidaire. Et je crois que, comme je l'évoquais tout à l'heure quand nous mangeons certains, c'est que, je dis souvent, le statut ne fait pas la vertu. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est forcément exemplaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tenu par la règle de non-bénéfice. Ça, c'est la loi. Mais on n'est pas forcément exemplaire dans la gestion du personnel, par exemple, ou dans l'organisation du travail, etc. Et une entreprise privée peut être beaucoup plus exemplaire. Donc, je crois que c'est tout ça qu'il faut regarder. Et donc, la loi qui est en préparation devrait avancer dans ce sens-là pour dire il faut des repères clairs et précis et des chartes précises auxquelles les gens se soumettent pour pouvoir se revendiquer entreprise sociale et solidaire. Voilà, je m'en reste là. Je crois qu'il est prévu un petit quart d'heure de pause et on va rediscuter après.
Donc, dans le cadre des jeudis en question, c'est la pause entre l'exposé et le débat. Donc, le bar est à notre disposition, les parlottes entre nous.